Bonjour et bienvenue dans Histoire, Histoire. Une émission qui vous embarque de l'Arize à l'Alaise à la découverte de l'histoire et des légendes du Volvestre. Je vous invite à une balade contée, bonne à bouleverser nos savoirs et à enchanter nos regards. Aujourd'hui, nos pas nous mènent à Carbonne. Ou plutôt, à quelques encablures de Carbonne, dans le quartier de la Terrasse. Un quartier historique et singulier de la ville, où la phrase du renard dans Le Petit Prince disant « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux » fait mouche et résonne longuement. Pourquoi ? Parce qu'à la Terrasse, plus grand-chose en apparence n'est apparent aujourd'hui. Et pourtant, qu'on soulève des pans d'histoire, et l'essentiel surgit. Mais, pour mieux y plonger, retrouvez vos oreilles d'enfant et laissez-moi vous conter. Il était une fois une famille qui emménageait dans le quartier de la Terrasse, au sud-ouest de la ville. Les parents déballaient le chargement, tandis que les trois enfants, Roxane, Apolline et Félix, qu'on avait poliment virés de la zone en chantier, s'en allaient musarder dans le parc tout proche, précisément au domaine de la Terrasse. Entre hautes herbes et ruines éparses, ils avançaient vers le sous-bois lorsqu'au croisement de deux chemins, Apolline, la cadette, fit remarquer aux deux autres une étrange cabane sous un grand chêne. Traversant ronces et quarts d'air pour y accéder, ils délogèrent un chapelet courroucé visiblement du dérangement. Sous le tipi, Félix, le Benjamin, remarqua qu'une toute petite chose bougeait. C'était une mésange que le méchant Matou malmenait. Roxane la recueillit dans ses mains.
« Pose-moi que je te cause » disait-elle. « Pose-moi que je te cause !»
Roxane la reposa aussitôt au sol et tous trois s'accroupirent pour écouter ce drôle d'oiseau.
« Merci, il a bien failli m'avoir ce sale chat. Heureusement que vous étiez là. »
Une mésange qui parle, les trois enfants avaient les yeux ronds comme des ballons.
« Eh bien quoi, ne me regardez pas comme ça. Je ne zinzi nulle pas qu'aux zinzins, vous savez. Et comme vous m'avez sauvé, qu'est-ce que vous voulez ?
Savoir qui vous êtes ?»
se risqua Roxane. « On me dit mésange, mais pour vous les petits, je serai la fée Carbonne. » Et alors là, les enfants n'en crurent pas leur mirette. Elle s'était changée en une drôle de fée toute noire aux belles ailes de libellule couleur brique ancienne.
« Pas mal, non ? » avait-elle dit goguenarde. « Alors, vous voulez quoi ? Et qu'est-ce que vous faites par ici ?»«
On vient d'aménager et...
On explorait !»«
Ah, mais vous ne connaissez pas le coin, fallait le dire tout de suite !»
Et d'un coup, la drôle de fée Carbonne frappa le tronc du grand chêne. Trois glands en tombèrent, un sur chaque tête d'enfant, qui aussitôt les transformèrent en mésanges à leur tour.
« Ah, vous êtes mimi comme ça ! Les mésanges carbonnières, c'est pratique, ça va partout. Allez, venez !» Je vous emmène survoler toute cette histoire.
D'un battement d'ailes, Félix, Apolline et Roxane traversèrent le couvert des arbres, guidés par la drôle de fée Carbonne. Ça, c'était de l'exploration.
Je vous préviens, je suis une bavarde. Il faut savoir que là où vous m'avez trouvé, nous sommes sur les ruines d'un très ancien château. Le château de la Terrasse. Terrasse, pourquoi ? Pas parce qu'on y a terrassé un dragon, mais parce qu'on est sur les bords de la Garonne et que l'endroit faisait une sorte de promontoire découpé en plusieurs étages avec vue sur le fleuve et la vallée. Pratique pour surveiller. Mais attention, hein, sous ces petits airs bucoliques, c'était un endroit très important. Les premiers documents qui parlent du site remontent au Moyen-Âge, à l'an 1050. Mais non loin, c'est bien plus ancien. Et ça nous amène jusqu'à l'époque gallo-romaine.
Oui, 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 Félix, n'hésite pas, tu peux te poser sur cette branche, elle tient bon.
D'ailleurs, à cette époque, ce n'était pas la ville de Carbonne, mais un lieu appelé Gona. Et plus tard, c'est la puissante abbaye de Bonnefonds, située en Comminges, au sud-ouest, qui a permis la naissance de Carbonne.
Au départ, ce n'était pour elle qu'une exploitation agricole. Mais, si je me souviens bien, en 1259, avec l'aide d'Alphonse de Poitiers, le nouveau comte de Toulouse, le site se transforme en bastide, une des dernières à être construite, hein, d'ailleurs. On appelait ça Carbonne, parce qu'avec les forêts autour, on y fabriquait du charbon. Elles viennent de là, mes petites peintures de guerre charbonnières.
Mais une autre légende raconte pourtant que la ville tient son nom des terribles faits d'un certain prince noir, Édouard de Woodstock, le fils du roi d'Angleterre. Beaucoup moins pacifiste que le festival du même nom, le fameux prince noir aurait carbonisé la ville lors de sa chevauchée en 1355 dans le contexte de la guerre de Cent Ans. C'était affreux.
Affreux ! Oh pardon, on voulait pas te replonger dans de tristes souvenirs,
tenta Roxane pour la consoler.
Merci, c'est gentil. Pour revenir à l'endroit où nous sommes, à 2 km du centre-ville, imaginez qu'il fut un temps où la Terrasse, c'était un village à part entière. Au moins jusqu'en 1839. il y avait alors un port de 540 mètres de long, un moulin à blé et 1,8 km de murailles pour protéger tout ça. Il y avait même sur la Garonne une sorte de barrage-péage pour taxer les navires.
Ce qui simplifiait pas les relations conflictuelles entre La Terrasse en amont et Carbonne en aval du fleuve. Pour l'essentiel, toutes les marchandises à cette époque-là passaient par là, par le fleuve. D'ailleurs, à Carbonne, on disait même qu'il y avait des marins qui charriaient leur cargaison jusqu'à Toulouse, et parfois même jusqu'à Bordeaux. Et c'était un métier dangereux, avec les courants et tout. Sauf en été, parce qu'alors là, l'étiage du fleuve n'était pas assez profond et ils étaient tous au chômage. Et puis, marins d'eau douce, d'accord, mais marins tout de même, hein, parce que ceux-là, quand ils rentraient dans l'armée, ils rejoignaient directement la marine royale.
Mais le château de La Terrasse, il est où? Je ne le vois pas,
demanda Apolline qui guettait un peu plus loin sur une branche de saule.
Eh, c'est que, aussi puissant qu'il était, le temps a fait son œuvre et, comme un galet roulé, la forteresse a peu à peu perdu des morceaux. Imaginez l'endroit. Au départ, c'était un château fort jusqu'à ce qu'il soit repris en 1482, soit 10 ans avant qu'on découvre l'Amérique, par la famille Potier. En 1580, 100 ans plus tard, les Potiers ont eu envie de se mettre à la mode et ont construit par-dessus la souche du château féodal un château Renaissance qui, lui, a survécu jusqu'au milieu du XXe siècle. Et c'est encore un Potier, Étienne, ancien président au Parlement de Toulouse et syndic général de la province du Languedoc, qui a fait construire l'église Saint-François d'Assise et sonner pour la première fois en 1670 Béatrix, la cloche de l'église. On peut la voir à l'entrée du domaine, un peu ruinée. Ben, normal qu'elle soit ruinée. Depuis les funérailles de la comtesse d'Opoule en 1901, il n'y a pas eu beaucoup d'autres cérémonies.
Et qu'est-ce qu'il faisait au château? Demanda Roxane.
Bonne question. Ça a varié au fil des époques, mais à la grande période, c'était une manufacture royale de draps, avec 350 personnes qui y travaillaient pour 106 métiers à tisser. C'est Colbert, le ministre des Finances de Louis XIV, qui a aidé au développement de cette industrie. Et pour ça, on a fait venir des experts de toute l'Europe qui savaient comment travailler la laine, la fouler, la carder, la teindre, la tisser, avec des machines complexes. La plupart de ces experts venaient de Hollande. Et aujourd'hui encore, on retrouve des noms de famille en vendent quelque chose dans la région. Quant à la laine, la meilleure, on la faisait venir d'Espagne ou d'Afrique du Nord. Mais il y avait aussi une production locale venue des Piémonts pyrénéens. N'oublions pas quand même les 35 moulins foulons du Volp et ceux de la Rize. En tout, c'est pas loin de 15 000 personnes qui travaillaient dans la région autour de ce commerce. Et les toiles produites allaient partout. En France, mais aussi jusqu'à l'Empire ottoman, au Levant, ça circulait, hein. C'était le bon temps. Même qu'à cette époque-là, celui qui avait dessiné les plans du parc, c'était Le Nôtre. Enfin, non, pas Le Nôtre, mais son nom de famille, Le Nôtre. Le jardinier du roi, le même qui est à l'origine du jardin de Versailles. Pas mal, non?
Mais, et pourquoi c'est en ruine maintenant?
Ah bah ça, c'est la dure loi du commerce qui a voulu ça, hein. Peu à peu, la concurrence anglaise a pris le dessus. Est-ce que c'était la fée vapeur qui a mis la pression? Je sais pas. En tout cas, ils étaient capables de produire plus, moins cher et de meilleure qualité. Alors forcément, ça a fermé. Ou plutôt, l'activité a changé. Parce qu'après, on est passé à la métallurgie avec la construction d'outils de taille. Des faux, des serpettes, des cisailles. Ou encore des ressorts de calèches. Et même, il y avait un moulin à lime.
Et du coup, pourquoi c'est en ruine maintenant alors? S'impatiente Apolline.
Eh bien, parce que le 23 juin 1875, après d'énormes pluies qui ont fait monter le niveau du fleuve de façon terrible, tout a été ravagé par ce qu'on a appelé la crue centennale, figurez-vous. C'était affreux. Tout a été emporté. Fini la métallurgie. Et en plus, avec l'arrivée du train, fini les voyages en bateau, fini les marins, tout a coulé. Alors le château, le parc, les ateliers ont été vendus en 1906, et ça a été le début de la fin, si je puis dire. Des troupeaux de moutons, la coupe des arbres et la vente des pierres du château ont peu à peu mangé le domaine. Puis les ateliers sont devenus des étables, et enfin,
mes oreilles s'en souviennent encore, on transforma les espaces en un dancing immense appelé le Mexico au début des années 70. Remarquez, c'était marrant. Ambiance, les 30 glorieuses, avec 2000 personnes d'un coup qui déboulaient en autocar et de futures stars qui s'essayaient à la chansonnette. Eddie Mitchell, Dick Rivers, Martin Circus ou peut-être même Michel Sardou si je crois bien. En attendant, ça n'a pas empêché les mauvaises gestions de laisser le bâtiment se dégrader.
Dans les années 60, il y a bien eu une association qui s'est créée, une tentative de la ville pour racheter le lot et le sauver, mais le prix à mettre n'était pas suffisant. Enfin bon. Depuis quelques années, je suis bien contente parce que ça repousse. L'herbe, les arbres, les projets. Et on me fout une paire royale dans la verdure. Sauf peut-être ce sale chat qui m'en veut. Le domaine a été repris, mais avec l'idée désormais de lui rendre sa valeur ternie. De faire voir au-delà du regard et à toutes les générations les perspectives historiques et les leçons futures qu'il recèle. La possibilité de faire de cet endroit celui de chacun, le foyer de ses jeux d'enfants et des souvenirs qu'ils laisseront, une pierre d'appel pour des destins adultes, l'idée de laisser le lieu fleurir les imaginaires qu'il porte, d'imaginer le monde de demain où l'homme conscient s'accorde à son territoire selon la flèche du temps, parce que toujours le passé est le soubassement de l'avenir.
Fée Carabonne, tu ne crois pas que tu t'emballes un peu là?
Ah oui, vous trouvez?
Mais c'est pas mal quand même, non?
J'ai toujours trouvé qu'il y avait un magnétisme spécifique dans cet endroit.
Pas étonnant que des kinésiologues s'y soient installés.
Et puis aussi, une maison de santé, des psychologues, des psychomotes, un cabinet d'orthophonie.
On y dépose des choses ici, vous savez. On y délie les langues avant de repartir. Mais enfin, c'est peut-être normal. Après le travail des matières et des matériaux, est-ce qu'on ne passerait pas à celui des corps et des âmes?
Et ça s'agite encore, hein, dans les sous-sols, que ce soit dans la galerie des vestiges où l'on trouve des mystères de pierre, ou en faisant un escape game à plusieurs enfermés dans une salle, ou même au grand air avec un sac à dos truffé d'énigmes à percer.
Et puis, le site est désormais classé espace naturel sensible par le département grâce au travail d'étudiants spécialisés dans la préservation environnementale.
Tout ça, moi, ça m'émeut. 10 espèces de mammifères, dont la loutre, 25 espèces d'oiseaux, et 9 espèces de chiroptères, de chauves-souris, qui hantent les 400 mètres carrés de cave sont désormais protégées après avoir été répertoriées ici, haut et bas.
Ça change des anciens bassins durés, c'était du pipi, utilisé pour dégraisser la laine. Ou de l'odeur de poudre à canon après la bataille de 1799 qui m'a grillé les poils du nez pendant des décennies.
C'est quoi cette bataille de 1799 dont tu parles?
Revenons en arrière. Vous voyez la Révolution française, la Terreur, la Bastille, etc. Eh bien, dans le coin aussi, ça a tapé fort. En fait, tout le monde n'a pas été pour la démocratie comme ça, d'un claquement de doigts. Pendant longtemps, des monarchistes ont combattu pour remettre un roi à la tête du pays. Et voilà donc qu'en août 1799, 10 000 monarchistes, guidés par le général Rouget, ont tenté 5 jours durant de s'emparer de Toulouse. Mais les troupes républicaines ont bien résisté, et les monarchistes ont battu en retraite vers le sud et les Pyrénées. Et c'est là que le 12 août, des combattants monarchistes, cachés dans le domaine du château de la Terrasse pendant leur débâcle, attaquent par surprise des républicains. Et les 4000 monarchistes qui menaient l'assaut l'emportent. Il y a des morts. On dit même que 68 républicains seraient enterrés quelque part dans le parc du château. Finalement, les monarchistes sont vaincus à Montrégeau, 65 km plus loin. Et tout ça, ça s'est passé ici. Vous voyez mieux dans quelles traces vous marchez en venant vivre ici à présent? Vous qui êtes à la pointe du temps? Sous vos pieds donc, d'un hameau gallo-romain à l'enceinte d'un château fort. D'un château fort à un grand château renaissant. D'une manufacture royale de draps avec ses jardins à une entreprise de métallurgie. On y a croisé le fer pendant les guerres, la laine en temps de paix. On a battu le fer sous l'industrie et la mesure sur l'immense piste du dancing. On a déchanté l'espace d'un temps de ruines et de friches, le port et les moulins à volo. Et voilà qu'on sauvegarde la pierre et la faune, qu'on enchante, qu'on y soigne, qu'on y joue. Alors, mes petits oiseaux, vous qui venez de vous installer ici, quelle page à votre tour de cette histoire allez-vous écrire?
Mais voilà qu'il fait noir, je crois qu'on vous appelle. Pour parcourir les temps à tire-d'aile, de but en blanc, n'hésitez pas, venez me voir. En attendant, parcourez les grimoires, explorez bien la ville, jouez, soyez habiles, défrichez les mémoires et dansez patiemment sur la ligne du temps.
La fée Carabonne avait repris sa forme de mésange et était repartie vers les profondeurs du sous-bois. Roxane, Apolline et Félix, qui avaient retrouvé forme humaine, demeuraient là, épuisés comme émerveillés. En se couchant dans leurs nouveaux draps dépliés, par quelle manufacture sera faite l'étoffe de leurs rêves? À votre avis? C'était Histoire, Histoire, un podcast proposé et soutenu par l'Office du Tourisme et la Communauté de Communes du Volvestre. Écrit et réalisé par Gabriel Tamalet, en association avec la compagnie Présence Monde. Je tiens à remercier l'association Histoire et Tradition Carbonaise, et plus particulièrement Christian Lacombe et Bernard Segala, pour leur accueil et l'accès à la documentation, ainsi que M. Laurent Portet, propriétaire du domaine de la Terrasse, pour la visite et le partage généreux de ses connaissances. Et pour les musiques, Timothée Bougon, Joël Sidbon et Dimitri Ayache, de l'ensemble Les Fulgurants. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés. À bientôt, sur les chemins du Volvestre.